Le Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elle. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Conférence de carême 2022 des Dominicains de Bordeaux. Saint Dominique, une mission au cœur de l'Église. Voici l'intervention du frère Augustin Laffey, une intervention enregistrée le 25 mars 2022. Saint Dominique, une mission au cœur de l'Église, le frère Augustin Laffey.
Merci de me donner l'occasion de parler, donner un petit écho à ce petit livre publié l'été dernier, à l'occasion du 8e centenaire de la mort de Saint Dominique, et dont je reprends quelques thèmes, mais de manière assez différente. Vous savez, l'ordre religieux, donc fondé par Saint Dominique, il y a 800 ans, porte de manière officielle le nom d'ordre des prêcheurs. Et ce nom d'ordre des prêcheurs n'est pas un détail. Il explique ce que font et ce que sont les fils et les filles de Saint Dominique. Les prêcheurs ont pour mission d'annoncer la parole de Dieu, d'évangéliser, pour répondre à l'invitation du Seigneur, aller de toutes les nations, faites les disciples. C'est la dernière, le dernier verset de l'évangile selon saint Matthieu. Ça, c'est ce que font les prêcheurs. Mais ils le font d'une manière particulière, parce qu'ils sont consacrés totalement à cette mission. Les dominicains sont consacrés totalement à cette mission de prédication. Ce ne sont pas seulement des religieux qui font des sermons. L'ordre des prêcheurs n'est pas l'ordre des parleurs, même des beaux parleurs, même des hauts parleurs. Prêcher pour les dominicains est un état de vie par lequel ils sont établis dans l'Église, par l'Église. Les fils de Saint Dominique sont, au sens fort, des prêcheurs tenu de ne rien préférer d'autre dans leur vie à cette prédication. Fonder un tel ordre des prêcheurs, ça n'a pas été une lubie de Saint Dominique, une fixette, le résultat d'une obsession toute personnelle. La mission dominicaine résulte d'un travail lent et patient d'un tout petit groupe d'hommes, et de Dominique en particulier, pour répondre aux besoins de l'Église de leur temps, au tout début du XIIIe siècle, en plein Moyen-Âge. Cette élaboration s'est faite en collaboration avec plusieurs papes, Innocent III, Honorius III, Grégoire IX, et elle s'est faite aussi sur les conseils de nombreux évêques, parmi lesquels se distinguent Diègue d'Osma et Foulque de Toulouse, un évêque espagnol et un évêque du sud de la France actuelle, avec lesquels Dominique a noué des liens de grande amitié, d'amitié confiante et étroite. Saint Dominique a toujours eu une très vive conscience d'être un coopérateur des évêques, et les dominicains sont tenus de l'être. Les constitutions primitives de l'ordre, le premier texte qui règle la vie de l'ordre au XIIIe siècle, interdit d'ailleurs aux frères d'aller prêcher sans mandat. Je les cite, « Lorsque nos frères entrent dans le diocèse d'un évêque pour prêcher, ils visiteront en premier l'évêque s'ils le peuvent, afin que selon son conseil, ils fassent dans le peuple le fruit qu'ils ont l'intention de faire, et tant qu'ils sont dans cet évêché, ils seront obéissants à l'évêque avec dévotion pour ce qui n'est pas contre l'ordre. » Les premiers mots du propre de la messe de Saint Dominique le célèbre, comme étant placé, le frère David vient de le rappeler, in medio ecclesiae, au milieu de l'Église, ou plutôt même au cœur de l'Église. C'est-à-dire, pour le préciser par une ancienne, que la sagesse de Dieu ouvre la bouche de notre fondateur, c'est ce que signifie, ce que dit le texte. Et dans un sermon du XIIIe siècle, un prédicateur comparait Saint Dominique à la bouche de la Sainte Église par laquelle elle enseigne et corrige ses fils. Dans le grand corps ecclésial, la vocation des dominicains, c'est d'être la bouche. Et la famille religieuse du saint enterré à Bologne en 1221 n'a pas d'autre vocation que d'être cette bouche, cette voix, ce porte-voix. Mais l'ordre des prêcheurs, s'il est tout entier voué à la prédication de la parole de Dieu, entre aussi dans la catégorie de familles religieuses qu'on appelle les ordres mendiants. Saint Dominique, donc le noble castillan, François d'Assise, le bourgeois de Lombrie, ont compris dans les premières années du XIIIe siècle que le service de l'Église, sa croissance, la purification de ses membres, appelait un témoignage rendu verbo et exemplo, par la parole et par l'exemple. Et c'est comme ça qu'avaient agi les apôtres de Jésus. À l'exception de Saint Jean et de Judas, évidemment, tous les apôtres, vous savez, sont morts martyrs. Et leur martyr, le don de leur vie, le témoignage jusqu'au sang, est venu comme confirmer ce qu'ils avaient annoncé par la parole. Les prédicateurs qui ont suivi ces apôtres n'ont pas tous connu le même sort, mais la même exigence de vérité est manifestée pour eux. Les actes parlent, tout comme une bouche parle, et ce que disent des actes doit confirmer ce qui est dit par la bouche. En vous proposant ce soir donc une réflexion sur la mission de Saint Dominique au cœur de l'Église, ce n'est pas directement de la prédication que je voudrais parler, du mystère de la parole de Dieu reçue et transmise, mais des moyens, des conditions qui ont rendu possible cette prédication selon un mode dominicain au cœur de l'Église. Et je voudrais pour cela parler en particulier de la pauvreté du prêcheur, qui est liée à ce mystère de la prédication. C'est dans l'Évangile qu'il faut chercher comment s'y prendre pour devenir prêcheur. Les premiers héros de la bonne nouvelle, les premiers chantres de l'Évangile, ce sont les apôtres choisis par le Seigneur, les 12 colonnes de l'Église. Donc, dans un premier temps, je voudrais vous montrer que Jésus a une manière très particulière de former ses apôtres pour l'annonce du royaume. Il les a dépouillés de ce qu'ils avaient déjà et les a fait rentrer dans une voie de pauvreté qu'il a empruntée le premier. Et dans un second temps, je voudrais m'attacher davantage à Saint Dominique et au renoncement qu'il a consenti pour être un de ces pauvres à même de pouvoir annoncer l'Évangile, pour être un authentique témoin de l'Évangile au cœur de l'Église. Alors, on dit Dominique donc, est situé donc in medio ecclesiae, au cœur de l'Église. On dit aussi de lui que c'est un homme évangélique. Vir Evangelicus. C'est à l'école de l'Évangile qu'il a appris ce que sont pauvreté et mendicité, puisqu'il appartient à un ordre mendiant. Alors, l'Évangile nous montre très clairement que le Christ a choisi pour lui, mais aussi pour ceux qu'il a attachés à lui, la voie d'une pauvreté radicale. Jésus a pris le chemin des plus petits pour se rendre audible à tous. Il est né dans une étable, il a travaillé longuement dans un atelier d'artisan, il a vécu à la merci des passants, il a sollicité l'eau puisée par une samaritaine, ou près d'un âne pour entrer à Jérusalem. Ses logements ont été de fortune. Vous connaissez ce verset de l'Évangile selon saint Matthieu. Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Le Fils de l'homme, lui, n'a pas où reposer la tête. Et juste avant de mourir sur la croix, une des dernières paroles du Christ nous livre même des mots de mendiant, de mendiant qui mendie quelque chose de vital. Il crie « J'ai soif, j'ai soif ». Donc à ce dépouillement extérieur, déjà très, très exigeant, a aussi correspondu un dépouillement intérieur. Jésus s'est séparé de ce qu'offre la richesse, des amis, des protecteurs, le respect de son honneur. Son peuple l'a renié, ses disciples presque tous l'ont abandonné, il est mort avili. Il a même semblé renoncer à la propriété de ses propos, de ce qu'il disait lui-même. « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé ». C'est en Saint Jean, au chapitre 7. Si quelqu'un veut accomplir sa volonté, il verra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de moi-même. Donc, Jésus s'est fait pauvre, mendiant, et s'il a un lien particulier avec les mendiants, c'est parce qu'il a pratiqué le métier, hein, il le connaît, et le bon peuple ne s'y est pas trompé. Hein, depuis saint Martin, qui a vêtu un pauvre de son manteau avant de reconnaître en lui Jésus grelottant de froid, après saint Martin, hein, depuis saint Martin, d'innombrables récits, d'innombrables scénettes ont présenté Jésus comme un mendiant, frappant incognito aux portes des villages et récompensant ceux qui, sans savoir, lui avaient donné abri et qui avaient été transformés par les quelques paroles de mendicité qu'il pouvait leur adresser, par ce qu'il faisait. Et le Seigneur Jésus n'a pas proposé aux siens une autre voie que celle qu'il avait choisie. En appelant ses apôtres, il les a détachés sans scrupule manifeste de leur village, de leur famille. À peine la belle-mère de Simon-Pierre est-elle guérie de sa fièvre et toute revigorée que le patron pêcheur de Galilée doit la quitter. À qui prétend le suivre après avoir enterré son père, Jésus déclare d'une manière tranchante « Suis-moi » et laisse les morts enterrer leurs morts. Jésus dépouille les siens et comme à plaisir, il les dépouille même de leurs compétences professionnelles en les arrachant à leur office. Ce n'est pas Matthieu, qui est banquier, qui tient la bourse des douze, malgré les compétences acquises à sa table de publicain, c'est Judas. Donc, comme il fallait vivre, la troupe évangélique a dû dépendre assez radicalement de l'aide des autres. Il a fallu taper des amis, solliciter des bienfaiteurs. Donc, on voit dans l'Évangile l'admirable famille de Béthanie, composée de Marthe, de Marie, de Lazare, qui a ouvert spontanément et largement ses portes et sa table au Messie et aux siens. Mais Jésus a tenu aussi à ce que ses apôtres et lui-même dépendent des rencontres qui avaient été faites apparemment à l'improviste. « Zachée, descends vite, il me faut aujourd'hui demeurer dans ta maison », dit Jésus en s'invitant chez le banquier de Jéricho. Pourquoi ce « il faut » Pourquoi une telle nécessité? Sinon parce que le salut de Zachée et la vie quotidienne de Jésus, la mendicité de Jésus, sa pauvreté, se mêlent étroitement en cet instant. C'est comme ça que sera annoncé l'Évangile dans la maison de Zachée. Pour que le message évangélique pénètre jusqu'au fond de l'âme de Zachée, il faut que le Seigneur mendie, et même là exige, l'accès dans sa maison de pierre. 12 siècles après ces épisodes, qui sont rapportés par les évangélistes, et dans le même souffle et le même élan que saint François d'Assise, exactement à la même époque, saint Dominique a recueilli l'héritage de la mendicité du Seigneur et de ses apôtres, pour les mettre au service de la mission de prédication. Vivre pauvrement et mendier, pour saint Dominique, je vais vous le montrer, c'est aussi sérieux que pour Jésus. La mendicité est exigeante, c'est pas une formule médiévale pour parler de fundraising, ou de souscription en ligne ou de télépaiement. Mendier, c'est réellement vivre dans l'angoisse du lendemain, et même du jour présent, dans la dépendance de ceux qui voudront nous donner de quoi subsister, alors que la seule monnaie dont nous pouvons les payer en retour est la parole de Dieu. Le frère Rodolphe, saint Dominique a bénéficié d'un procès de canonisation, un des tout premiers dans l'histoire de l'Église. Ça se met en place au XIIIe siècle. La procédure se met en place au XIIIe siècle. Et une vingtaine d'années après sa mort, donc c'est encore frais dans bien des mémoires, on va faire une enquête, on va interroger les frères qui ont vécu avec lui les dernières années de sa vie à Bologne, et de là on va faire une sous-enquête dans le Lauragais, dans la région autour de Toulouse, pour savoir comment il avait vécu dans une période antérieure. Et le frère Rodolphe, qui est interrogé dans l'enquête de Bologne, et le procureur du couvent de Bologne. Le procureur, c'est celui qui s'occupe des sous dans un couvent. Et il a la, dans sa déposition la précision d'un syndic conventuel, de quelqu'un qui remplit des colonnes de chiffres, et il faut que ça tombe à peu près juste. C'est un comptable à qui on ne raconte pas d'histoire. Et il dit, lorsque le pain, d'autres vivres ou le vin manquait dans la maison, il allait, lui, trouver ce frère Dominique et lui disait, nous n'avons pas de pain ou de vin. On va trouver le responsable, le prieur, le fondateur, Dominique. Et Dominique disait, va et prie, car le Seigneur y pourvoira. C'est pas tout à fait les réponses qu'attendent généralement les mères de famille ou ceux qui ont à préparer le repas pour la communauté. Ce témoin allait à l'église pour prier, et ce frère Dominique souvent le suivait, et Dieu faisait si bien qu'ils avaient toujours des vivres suffisants. Parfois, le peu de pain qu'ils avaient, sur son ordre, ils le mettaient sur la table, et le Seigneur ajoutait ce qui leur manquait. Cette attente, donc, n'est pas que l'espérance, que dans l'espérance d'une prière exaucée, elle s'accompagne de gestes d'humilité et même d'humiliation consentis par Dominique. Un frère, Paul de Venise, a vu Dominique aller quelquefois de porte en porte demander des aumônes et recevoir du pain comme un pauvre. Et mieux, le même témoin l'a souvent entendu dire aux frères qu'il voulait qu'ils eussent à vivre d'aumônes. Alors pourquoi doit-il en être ainsi ? En quoi la pauvreté évangélique est-elle, favorise-t-elle la proclamation, la parole de Dieu ? En quoi permet-elle à saint Dominique et aux siens au XIIIe siècle et depuis lors de prêcher l'Évangile ? Je ne vais pas donner toutes les réponses, mais je voudrais le faire d'après l'Évangile. Parce que pour comprendre ce mystère du lien qu'il y a entre la pauvreté, le fait que nous soyons un ordre mendiant, et que saint Dominique est particulièrement incité sur cette pauvreté, et la prédication, qui est ce que nous sommes, pour comprendre ce lien est essentiel pour nous, et pour le comprendre, il n'y a que l'Évangile qui puisse nous donner la clé de compréhension. Quels moyens le Seigneur a-t-il donné à ceux qu'il s'est attaché pour continuer son œuvre ? Lisez l'Évangile, la réponse est simple. Il ne leur propose rien d'autre que lui. Et de tout le reste, il faut se détacher. Il n'y a pas de gadgets spéciaux à la James Bond. Il y a toujours un passage dans un James Bond, au début du film, où on passe dans le dépôt d'armes et on découvre le gadget du film, qui va fonctionner forcément à un moment, il faut que ce soit rentabilisé par la suite. Là, il n'y a pas de technique imparable. Dans le monde, et parfois jusque dans l'Église, aujourd'hui, on prétend s'y entendre en stratégie, en logistique, en planification, en organisation de toutes sortes. On y perd souvent une énergie précieuse et on y perd toujours un temps infini. Jésus, lui, envoie les siens prêcher, il envoie les siens en mission, dans une nudité insolente. Et on dirait même qu'il est démuni à plaisir. Pensez au passage sur la mission des douze dans saint Matthieu. Dominique, saint Dominique, connaissait cet évangile presque par cœur, nous disent les sources. Il a abondamment lu et médité cet évangile et très certainement ce passage de l'évangile. Jésus envoya les douze en mission avec les recommandations suivantes. Chemin faisant, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Des paroles donc magnifiques et terrifiantes pour l'apprenti apôtre. Quand une puissance, Jésus est le Fils de Dieu, quand une puissance investit d'une autorité ses agents, elle leur donne normalement les moyens qui vont avec. Des insignes, des uniformes, des gyrophares, des sifflets, des matraques, des porte-voix, tout ce que vous voulez. Quand un patron donne mission à des communicants de promouvoir son entreprise, il dote ses émissaires d'une documentation attrayante, il prévoit des frais de représentation, il propose des essais. Pour les douze, rien de tout cela. La puissance et l'autorité que Dieu leur confie sont invisibles à l'œil nu, alors que les prétentions sont énormes et invraisemblables à vue d'homme. Il s'agit de guérir les morts, c'est déjà difficile pour les médecins compétents, guérir les malades, c'est déjà ce qui est déjà difficile pour les médecins compétents, mais il s'agit en plus de ressusciter les morts, ce qui est bonnement impossible, alors qu'on a les mains vides, aucune idée du comment faire. Et ce n'est pas tout, le texte continue, Jésus dit aux apôtres, ne vous procurez ni or, ni argent, ni menu monnaie pour vos ceintures, ni besace pour la route, ni de tunique, ni chaussures, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Quand les frères se déplacent d'un couvent à l'autre, aujourd'hui, ils ont un peu plus, généralement, qu'une paire de chaussures, un bâton et une tunique. Mais un bâton, pas de vêtements de rechange, une paire de sandales, vous voyez, cette disproportion entre les ouvriers et la carrière où ils entrent, cette précarité, ce désarmement, cette quasi-nullité de moyens, c'est pour Jésus le critère par excellence, et ça nous semble une folie. Dieu agit de la manière la moins technicienne possible. Il envoie prendre des hommes à voix et à main nue, comme il l'a fait lui-même, à voix nue, par sa parole, et à main nue, sans piège. Et la raison de cette politique divine est simple, il n'existe pas d'instrument adéquat pour retourner un cœur d'homme vers Dieu, pour gagner une âme. On ne peut s'y prendre qu'avec de l'humain. Et c'est pourquoi le Verbe s'est fait chair. Mystère que nous célébrons aujourd'hui, de l'incarnation dans le sein de la Vierge Marie. L'ennemi, avec un grand E, le diable a bien compris le danger de l'incarnation, et quand les pieds de Jésus sont cloués sur la croix, ces bourreaux doivent avoir l'espoir vain qu'il ne pourra plus courir le monde à la recherche des hommes, comme il l'avait fait en Galilée, en Judée, durant 3 ans. En clouant les mains du Christ sur la croix, ces tortionnaires ont dû nourrir l'illusion qu'elle ne pourrait plus bénir, guérir, consoler, ressusciter comme il l'a fait pour Lazare, consacrer, consoler, bref, sanctifier les hommes. Mais l'ennemi n'avait pas pensé que de nouveaux apôtres, et parmi eux, les prêcheurs, nous, poursuivraient jusqu'à cette heure l'œuvre du Christ et travailleraient à édifier et embellir son Église. Vous l'avez compris, l'équipement de l'apôtre qui suit Jésus-Christ, ce n'est pas une valise chapelle, ce n'est pas quelques bouquins, c'est son humanité, dans toute sa faiblesse, mais une humanité configurée au Christ pour être ses pieds, ses mains, son cœur, son intelligence, et s'il est dominicain, très particulièrement, sa voix. Alors, ce que je viens de vous présenter, c'est sans conteste possible ce que saint Dominique a compris du message évangélique. Je pense que c'est ainsi qu'il a lu la vie des apôtres. Mais cette compréhension s'est faite de manière progressive. Au cours de la cinquantaine d'années de sa vie, il naît vers après 1171 et il meurt le 6 août 1221. Il lui a fallu du temps, des étapes, pour consentir à entrer dans cette vocation apostolique. La dépossession de soi est un long chemin, celui de la pauvreté évangélique, qui est évoqué dans la première des Béatitudes, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Ça, c'est un but, puisque le royaume des cieux est à celui qui le tient. C'est au terme de tout un processus. L'homme naît un vrai pauvre, et ne plus avoir comme richesse à partager que le trésor du Verbe. Alors, pour ressembler au Christ mendiant, saint Dominique a fini par être, pour travailler, donc pour l'Église, saint Dominique a fini par être dépossédé de toutes les richesses qui étaient siennes. Ça ne s'est pas fait en un jour, ni d'une manière purement passive, car Dieu ne fait rien pour nous sans nous. Et c'est la liste de 7 dépossessions, de 7 renoncements de Dominique pour le service de l'Évangile et indissociablement de l'Église, que je voudrais maintenant établir en reprenant le fil de sa vie. Dominique, d'abord, a dû renoncer à sa famille. Son père se nommait Félix, sa mère Jeanne relève sobrement la légende de Pierre Ferrand. Ces Castillans s'étaient mariés en 1171 et vivaient en 70 et vivaient dans le petit village, dans un petit village qui s'appelle Caleruega, au sud de Burgos, en Espagne. Son père fut un homme respectable et riche en biens propres. Sa mère, quant à elle, était une femme de bonne vie, réservée, prudente, très compatissante envers les malheureux et les affligés. Et parmi toutes les femmes de ce pays, elle brillait du privilège de la bonne réputation, précise Rodrigue de Cerato, qui a recueilli assez tôt ses souvenirs familiaux sur place. On n'en sait pas beaucoup plus de ce que livrent les sources du XIIIe siècle. Ses parents étaient en tout cas des personnages importants et entourés d'une réputation de sainteté. La famille de Dominique a constitué un milieu fervent. Son frère Mamès est devenu dominicain. Un autre frère, lui aussi prêtre, s'est consacré au service des plus pauvres. Des neveux ou des cousins de Dominique sont entrés aussi dans l'ordre des prêcheurs. On pense quand même qu'il y a une fille qui s'est mariée, qui a eu des enfants, qui lui a donné des neveux. Bien. Tout cela, vous voyez, dit la tribu chaleureuse, l'amour familial, l'affection filiale. Eh bien, cet univers, Dominique l'a quitté dans sa jeunesse, sans un regard en arrière. Il a pris au sérieux la première phrase que la Bible consacre aux parents. Vous savez, cette phrase que l'on explique longuement aux fiancés lors de la préparation au mariage et qui chiffonne parfois du côté des parents et des beaux-parents, des deux côtés. L'homme quitte son père et sa mère, il les quitte, et il s'attache à sa femme, et ils deviennent une seule chair. Eh bien, Dominique a quitté son père et sa mère, il n'a pas épousé une femme, il s'est donné à l'Église, sans jamais reprendre ce don. Son épouse, ça a été l'Église. Et s'il est revenu une fois en Espagne entre 1211 et sa mort en 1221, c'est pour le service de sa mission, c'est pour le service de l'Église. Ce n'est pas pour se faire admirer chez lui. Devenu patriarche et fondateur des prêcheurs, il n'a pas profité de sa place pour venir se faire admirer des siens. Donc, premier renoncement consenti, premier appauvrissement qui va lui permettre d'être libre pour sa mission au cœur de l'Église, le renoncement à sa famille. Deuxième renoncement, les renoncements aux délices d'une vie intellectuelle. Un grand historien dominicain et un théologien, penseur dominicain, le père Mandonnet, affectionnait cet adage. Lire, joie. Penser, délice. Écrire, supplice. Et lire, penser, écrire, c'est un résumé des activités de l'intellectuel. Ces activités, saint Dominique les a goûtées, il les a connues, il les a aimées. Il a connu la joie de lire et les délices de la réflexion. Il a d'abord été éduqué par un oncle prêtre, il a ensuite fréquenté donc les écoles de Palencia pour étudier ce qu'on appelait les arts libéraux et se former à la manière de son temps dans les grandes disciplines qui permettent ensuite de poursuivre le cursus universitaire proprement dit. Donc, il a étudié ces sciences de la grammaire à la musique. Et puis, après plusieurs années de cette propédeutique, il s'est consacré durant 4 ans à la science des Saintes Écritures, à la Sacra Scriptura, à la théologie, en se confrontant au texte biblique, en le mémorisant, en le travaillant, en se posant des questions à son propos. Et le centre d'études dans lequel il était, la ville de Palencia, fondée à l'initiative du roi de Castille, Alphonse VIII, était alors un centre d'excellence en Castille, au point de permettre la fondation en cette ville de la première université espagnole. Et Palencia a été ouverte au reste de l'Europe. Dominique a rencontré des clercs venus de France, d'Italie. La théologie qui y était pratiquée, déjà marquée par les nouveautés parisiennes. Donc il a reçu une formation exigeante et poussée. Et la longueur de la formation qu'il a reçue indique qu'il s'y est plu. Lire, joie, pensée, délice. Le jeune Dominique a est devenu un intellectuel hein, à la manière du Moyen-Âge, et on se dit qu'il aurait pu laisser hein, une œuvre qui justifierait qu'on donne son nom à des groupes scolaires ou à des avenues dans le monde entier, hein, comme saint Thomas qui nous a laissé la Somme de théologie, ou Dante, hein, la Divine Comédie. Et c'est pourtant à Palencia, alors qu'il est dans cette joie et ces délices, que s'est produit un épisode hein, très bien attesté par toute une série de témoins, hein, ce qui indique cet épisode a marqué vraiment tous ceux qui l'ont connu en son temps, un épisode qui révèle l'esprit de charité qui l'animait. Alors qu'une forte famine désolait l'Espagne, rapporte un auteur qui s'appelle Jourdain de Saxe, Dominique, bouleversé par la détresse des pauvres et brûlant lui-même d'un élan de compassion, décida qu'en une même action, il se conformerait au conseil du Seigneur et simultanément remédierait du mieux qu'il pouvait au dénuement des indigents qui se mouraient. Il vendit donc les livres qu'il possédait, alors qu'ils lui étaient fort nécessaires. Il institua une aumône, distribua, donna aux pauvres. Par son exemple de bonté, il stimula si bien l'esprit des autres théologiens et des maîtres que devant la générosité du jeune homme, ils trouvèrent mesquine leur inaction et dès lors donnèrent en abondance des aumônes plus généreuses. Au témoignage du frère Étienne, hein, lors du procès de canonisation, donc en 1233, Dominique aurait même déclaré « Je ne veux pas étudier sur des peaux mortes hein, et que des hommes meurent de faim. » Alors, la portée de ce geste hein, ne doit pas être minorée. Vendre ses livres, ses parchemins, pour fonder une aumône, c'est-à-dire un centre de distribution hein, de biens, c'était renoncer à faire carrière dans l'université pour sauver la vie de son prochain. Et on sait qu'à la même époque, c'est dans un texte qui est moins fiable, Dominique se serait même offert hein, à se vendre comme esclave pour acheter la liberté d'un homme tombé aux mains des Sarrasins. Il a considéré que sa vie hein, et le plaisir de la lecture et d'étude valaient moins hein, que le salut hein, de personnes. Vous voyez, moi je suis à la tête d'un dépôt d'archives sur la colline la plus haute des sept collines antiques de Rome, l'Aventin, 64 mètres d'altitude, hein, et je suis à la tête d'un dépôt d'archives constitué depuis 8 siècles, et puis d'une bibliothèque historique qui est jointe. Si j'avais à vendre tout ça, enfin, ou à encourager cette vente, mais je préférerais qu'on m'écrase, que disparaître. Hein. Je ferai tout pour ne pas le vendre et le préserver, hein, parce que je pense que ça a une valeur hein, importante. Le sacrifice qu'il a fait est un sacrifice à long cours, hein, dont il ne pouvait pas ignorer l'importance. Hein. Que ferait-on ici s'il n'y avait plus de bibliothèque du jour au lendemain et plus de connexion? Donc, pour ne pas avoir des bibliothèques électroniques. Mais, eh bien, les pauvres frères seraient obligés de partir. Hein. On a besoin de bibliothèques. Quand on est dominicain, eh bien, Dominique a commencé, vous voyez, son premier pas, en entrant dans une voie de sanctification pour le service de l'Église, hein, il a consenti, donc, à l'abandon de ses livres. On s'est rattrapé après lui. Et un troisième renoncement, c'est le renoncement à une carrière dans l'Église. Si Dominique était bien sûr membre du corps du Christ par son baptême depuis sa naissance, il est devenu vraiment serviteur de l'Église vers 1197, il a moins de 25 ans, en intégrant une communauté de chanoines réguliers placés sous la règle de saint Augustin hein, à Osma, toujours en Castille. Il y a vite trouvé sa place, il est devenu un religieux exemplaire. C'est là qu'il a commencé à prier, à la nuit tombée, devant chacun des autels de l'Église. C'est là qu'il a pris l'habitude, gardée jusqu'à sa mort, de consacrer une grande partie de la nuit à la prière personnelle. C'est là que, conformément à la règle, il a appris à ne dépendre pour tous ses besoins que de la communauté, mangeant au réfectoire commun, étant habillé par la communauté, partageant le dortoir avec les autres chanoines. Bref, il est entré dans une voie de dépendance et de pauvreté, la voie religieuse. Et il a répondu tellement bien à cette vocation qu'il est devenu sous-prieur de sa communauté très tôt, très vite, 4 ans après être entré. Et alors même que celui qui est prieur va devenir évêque et va utiliser Dominique un peu comme son bras droit. L'évêque Diègue d'Osma, donc religieux de cette communauté et devenu évêque, était zélé pour le service de l'Église, austère dans ses mœurs, très actif à la cour du roi de Castille, nourrissait l'amitié pour Dominique et il trouvait en lui un clerc efficace, capable de le seconder efficacement. Le chemin d'une carrière était ouvert à Dominique pour devenir évêque, voire plus. Et la collaboration étroite de Diègue et Dominique pouvait propulser Dominique jusqu'aux plus grandes responsabilités ecclésiales. C'est pourtant pas cette voie qu'il a choisie, il y a renoncé, et par 3 fois, il refusera plus tard même de devenir évêque. Par 3 fois. Donc, renoncement à sa famille, renoncement aux délices d'une vie intellectuelle, renoncement à une carrière ecclésiastique. 4e renoncement, le renoncement à voir le résultat de son travail apostolique. En franchissant les Pyrénées en 1203, Dominique découvre l'hérésie des Albigeois, ce qu'on appelle les cathares, car c'est plus vendeur touristiquement. À Toulouse, le prélat et donc Diègue d'Osma et sa suite, dont fait partie Dominique, sont hébergés par un hérétique. Et Dominique, raconte Jourdain de Saxe, a débattu toute la nuit avec ce dernier, avec force et ardeur, pour le convaincre de la vérité de la foi catholique et obtenir sa conversion. Et chanoine, qui était Dominique, a utilisé pour ça toutes les ressources intellectuelles dont il était pourvu. Il a disputé, il a argumenté, comme on le faisait dans les écoles de Palencia où il s'était formé. Il a sans doute compris aussi que les fidèles attendaient du clergé non seulement des bons arguments et un vrai respect des Écritures, mais aussi une sainteté éminente. C'est sans doute en partie par déception qu'il réservait un bon accueil aux prédicateurs hérétiques. Le résultat a été probant. Au terme de cette première nuit de rencontre avec un hérétique, l'auteur qui nous rapporte cet événement nous explique que l'homme est revenu à la foi catholique, s'est converti. Bien, il y en a eu un, mais après. Après, Dominique prêche, de 1206 à 1217, pratiquement donc pendant 11 ans, il se trouve dans une région qui va de Toulouse à Narbonne. Il sillonne cette région dans des temps de grande misère, parce qu'à partir de 1208, il y a la croisade des Albigeois, des guerres, une espèce de guerre civile, si vous voulez, qui déchire la région. Et ses succès sont très médiocres par rapport aux efforts qu'il déploie. La mission à main nue à laquelle il se livre ne produit pas de résultats spectaculaires. Et on le sait notamment parce qu'on parle très peu de lui dans les récits officiels qui sont faits de la croisade, dans les chroniques. Il prêche l'évangile, il est verbo et exemplo, il essaye d'être un témoin véridique de l'Église, sans véritable succès. Y compris pour les quelques hérétiques convertis par lui, dont certains reconnaîtront des années plus tard qu'ils sont retournés à l'hérésie après son départ. La lumière ne s'était faite pour eux que durant un moment. Donc saint Dominique n'a pas été l'homme de résultats spectaculaires, de grands rassemblements de foule. Ces résultats sont demeurés limités en nombre et précaires. Beaucoup de frères connaissent cette austérité du travail apostolique. Mais il a accepté de renoncer à voir le résultat, le fruit de son travail apostolique, sans cesser de s'y livrer. Cinquième renoncement, le renoncement au bien et le choix des moyens pauvres. En 1206, l'évêque Diègue d'Osma donc, et son chanoine Dominique rencontrent à Montpellier les légats du pape conduits par l'abbé Arnaud Amaury. Et les légats du pape, c'était des abbés cisterciens qui, pour l'essentiel, qui avaient été envoyés par le pape pour essayer, à travers des grands sermons d'apparat, des grandes rencontres organisées, de ramener seigneurs et fidèles à la foi catholique, les détourner de l'hérésie. J'étais découragé devant l'absence de résultats, ce qu'on constate aussi avec Dominique. Mais rompant avec leur défaitisme, l'évêque d'Osma, Diègue, et puis son compagnon Dominique, leur proposent d'adopter du côté catholique un mode de vie en adéquation avec le but recherché, qui était le retour à la pleine communion catholique des fidèles. D'après Jourdain de Saxe, l'évêque déclare au légat « Ce n'est pas ainsi, frère, ce n'est pas ainsi qu'à mon avis vous devez procéder. Il me semble impossible que ces hommes soient ramenés à la foi par des paroles seules, eux qui s'appuient plutôt sur des exemples. Émoussez un clou par un autre clou. Faites fuir la sainteté feinte au moyen de la vraie religion, car la morgue des pseudo-apôtres veut être terrassée par une humilité manifeste. » Il leur conseille d'agir et d'enseigner à l'exemple du divin maître, d'aller à pied, sans or ni argent, imitant en toute chose la prédication apostolique. Ce sont les mots mêmes de l'évangile de saint Matthieu que je vous citais à l'instant. Diègue embrasse donc avec Dominique le parti d'agir en homme vraiment évangélique. Il s'agit de suivre les recommandations données aux 12. Et donnant l'exemple, l'évêque, son chanoine, renvoie à Osma bagages et compagnons, et en compagnie de 2 légats, ils se mettent à pied, à prêcher et à disputer contre l'hérésie, ils se mettent en route. C'est cette même année, 1206, que dans un tout autre contexte, en Ombrie, François renonçait à ses biens et obtenait de l'évêque d'Assise le statut de pénitent au sein de l'Église. François, dont la voix était si puissante au XIIIe siècle et n'a cessé de l'être, François d'Assise, qui est l'homme qui a le plus ressemblé au Christ, voyez, dans l'histoire de l'humanité, certainement. Si on l'a tant aimé et suivi jusqu'à maintenant, s'il est si populaire, c'est parce qu'on a vu en lui un autre Christ. Celui qui était vraiment en conforme en tout au Christ. Quel est le geste inaugural qu'il fait en 1206? Il se met nu devant les habitants de sa ville pour tout rendre à son père, même ses vêtements. Et se réfugier, l'évêque l'abrite dans sa chape, l'Église le prend sous sa protection. Vous imaginez cette scène grandiose, et stupéfiante, complètement inédite dans l'histoire de l'Église, d'un jeune homme qui se met nu en public devant la foule après avoir rendu à son père son argent et ses vêtements en lui disant « voilà, je ne veux plus vivre que pour le Christ », ce qu'il fera jusqu'au bout. Eh bien, vous voyez, c'est Dominique, à sa manière, adopte exactement le même comportement, et c'est ça qui va rendre, vous voyez, leur parole si importante et si efficace au sein de l'Église. Des années plus tard, trois ans plus tard, Dominique aurait rencontré saint François à la Portioncule, au pied de la ville d'Assise. Plus de 5000 frères étaient réunis, plus de 5000, dans un désordre invraisemblable. Et saint Dominique s'est étonné, ne pouvant imaginer comment une telle multitude se pourrait diriger sans avoir ni soin ni souci des choses nécessaires au corps, et devant le miracle du fait que ça ait lieu, alors que ça lui semblait impossible, les Fioretti disent qu'il se serait agenouillé devant François, le poverello, en promettant d'observer désormais en tout la pauvreté évangélique. Donc, renoncement au bien, choix des moyens pauvres. Je vous disais que le Christ avait dépouillé les 12, bien Dominique doit consent à ce dépouillement pour sa part. Sixième renoncement, le renoncement aux propriétés. C'est un point qui est facile à prêcher dans ces murs, puisque cette église et ce couvent de Bordeaux appartiennent à la ville de Bordeaux, ne sont pas la propriété des frères. C'est à l'issue d'une tournée auprès des communautés de l'Europe du Sud que Dominique a fait le choix du renoncement aux biens. Et selon le père vicaire, le grand historien de Saint-Dominique, il s'est plus agi de l'aboutissement d'une réflexion sur les exemples des franciscains ou même des cathares que d'un coup de foudre. D'après les actes du procès de canonisation de Dominique, c'est la rencontre avec un cardinal, Gaulin, le futur pape Grégoire IX, qui va précipiter les choses, visitant les petites communautés de son ordre en Espagne, en France, en Italie. Dominique a rencontré, s'est rendu compte qu'il fallait consentir, à ne pas être propriétaire de ce dans quoi on habitait. Une des premières questions agitées entre ce cardinal qui l'éclaire et Dominique fut celle de la pauvreté absolue. L'expérience avait montré la possibilité pour les couvents établis de subsister même sans revenus. Il fut arrêté que désormais on vivrait de mendicité. Dominique, en conséquence de cette résolution, fit détruire l'acte par lequel un riche habitant de Bologne venait de faire une importante donation au couvent des frères. Et au printemps et à l'été 1219, sur sa demande, les couvents de Bologne et de Paris, les plus importants de l'ordre, vont se défaire de leurs dîmes, de leurs maisons. Le 8 décembre de la même année 1219, le pape consacre les dominicains dans la pauvreté à laquelle ils s'engagent. Et enfin, le chapitre général des frères prêcheurs à la Pentecôte 1220, le premier dans l'histoire de l'ordre, définit de façon claire que la mendicité doit être vécue non seulement de façon individuelle par les frères, mais également de manière collective par les couvents. Là encore, il s'agit de répondre aux encouragements du pape. Un document papal de décembre 1219 destiné à Dominique et aux siens fait l'éloge des prêcheurs en disant qu'ils ont fait vœu de vivre dans l'abjection de la pauvreté volontaire. Leur richesse leur permet de ne travailler que pour une nourriture qui ne périt pas. Il n'est peut-être pas un point sur lequel Saint-Dominique ait plus insisté que la pauvreté. Sa dernière pensée fut pour elle, cette pauvreté qu'il avait aimée et qui voulait laisser à l'ordre comme son honneur et le gage de sa fécondité. « Mes frères, mes bien-aimés », aurait-il dit à ses fils sur son lit de mort, « voici l'héritage que je vous laisse comme à mes enfants, ayez la charité, gardez l'humilité, possédez la pauvreté volontaire. » Et c'est cela qui vous permettra de prêcher, de servir l'Église comme vous avez à la servir. Septième renoncement, qui contient un peu tous les autres, le renoncement à sa volonté propre. Le renoncement à sa volonté propre. Tous ces renoncements que j'ai cités, à partir de renoncement à sa famille, aux délices de la vie intellectuelle, à la réussite, dans tous les domaines, tous ces renoncements ne s'explique que par un suprême renoncement qui est fondamental pour l'histoire dominicaine, mais pour l'histoire de l'évangélisation, pour l'histoire de l'Église, le renoncement à sa volonté propre. Et là encore, c'est Jésus et l'Évangile qui commandent. Il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux, il faut faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et les manifestations de ce renoncement sont innombrables dans la vie de Dominique. Dominique n'a pas eu spécialement, mis à part dans la période où il était, dans ce qu'est la France actuelle, dans le sud de la France, mais il n'a plus ensuite un désir spécial de s'occuper de communautés féminines, de moniales. Mais le pape lui a demandé de réunir les moniales de Rome dans un couvent des moniales de Rome qui appartenait à des micro-monastères qui n'était plus viable, en une seule communauté qui serait soumise, unifiée, par la règle que lui-même avait mise en place à Prouille. En 1221, le 21 janvier 1221, il peut faire rentrer les moniales de plusieurs monastères dans le monastère de Saint-Sixte, et lui va le même jour à Sainte-Sabine, là où j'habite, et il n'avait pas cherché cette mission, elle lui a été donnée, il l'a acceptée car il y a vu la volonté de Dieu. Abandonner sa volonté propre, ce n'est pas devenir une plante verte, se poser et arrêter de bouger et de faire quoi que ce soit. C'est rentrer dans la volonté du Père, et rentrer dans la volonté du Père telle qu'elle se manifeste notamment à travers les ordres légitimes qui sont donnés par l'Église. Pour lui, renoncer à sa volonté propre, ça a été aussi accepter de la rencontre avec tous les acteurs de la vie politique et sociale de son temps, si l'on peut dire, en particulier dans les circonstances si difficiles de la croisade des Albigeois à partir de 1208. Foulque de Toulouse et Simon de Montfort, les gagnants et les perdants de l'histoire, il les a connus et aimés, et il a tâché de les gagner au royaume. Renoncer à sa volonté propre, c'est aussi accepter la direction donnée à l'Église pour ce groupe, son groupe de prédicateurs. Le père des prêcheurs a situé résolument sa vie donc et son action au cœur de l'Église. Je l'ai dit, in medio ecclesiae. Sa mission ne pouvait être livrée qu'à ce prix. Il ne monte pas une maison Saint-Dominique à côté de l'Église. L'ordre des prêcheurs répond aux attentes ecclésiales qui lui sont adressées. La formule de profession des religieux dominicains, celle que nous avons professée pour un certain nombre d'entre nous ici, ne mentionne qu'un vœu d'obéissance. Ce vœu inclut bien entendu la pauvreté et la chasteté. Ça n'aura aucun sens si on faisait un vœu d'obéissance sans être chaste et pauvre. Mais la manière dont cette formule a été forgé au début du XIIIe siècle, indique que c'est toute la volonté qui est consacrée par la profession dominicaine. C'est ce que manifeste la seule mention de l'obéissance. Quand on est prophète, on ne s'appartient plus. C'est-à-dire, quand on est engagé par la profession, on ne s'appartient plus. On a consenti à ce que tous nos actes, toutes nos paroles, s'inscrivent à la suite du Seigneur. Faire profession d'obéissance, c'est offrir notre volonté à Dieu pour sa gloire et pour notre joie. Et offrir sa volonté, c'est offrir tout son être. En consentant au renoncement qui lui était proposé, saint Dominique ne s'est pas fait une vie confortable. C'est un homme épuisé, littéralement mort de fatigue, qui rend son âme à Dieu le 6 août 1221. Mais cette pauvreté, cette mendicité à laquelle il a consenti, librement assumé, a comme libéré en Saint-Dominique tout un espace encombré que Dieu est venu combler. Au fond, comme le disait le père Clérissac, qui était un théologien du siècle dominicain du siècle dernier, Dieu n'a besoin que de notre soif et de notre vide, non de notre plénitude. Il n'a pas besoin de ce dont nous sommes pleins quand nous naissons, il a besoin de notre vide. Et donc il faut nous vider, consentir à ces renoncements pour être plein de lui, et alors prêcher, et alors donner, et alors servir l'Église. Cette masse de grâce qui est venue combler sa vie, Dominique l'a largement partagée aux autres, témoignant une extraordinaire fécondité, non seulement de son vivant, mais depuis 8 siècles. Sa pauvreté a fait des riches, pour le plus grand profit de l'Église. Alors, c'est une leçon et un exemple pour nous, dominicains, mais pas seulement pour nous. Chacun des fidèles du Christ, appelé par son baptême, a une vie prophétique qui comprend l'annonce du royaume, c'est-à-dire chacun d'entre vous, et est appelé un jour ou l'autre à ses renoncements. Appelé à quitter son père et sa mère pour se marier ou servir le corps ecclésial. Chaque baptisé est amené à renoncer aux illusions du succès. Pas à faire une carrière nécessairement, mais à croire que ça va être, que c'est la vie éternelle sur terre. Chaque baptisé est amené à traiter les biens dont il jouit et dont il dispose comme des moyens et non comme une fin. Il peut en faire n'importe quoi. Et c'est en ce sens que, vous voyez, l'exemple de saint Dominique aussi est intéressant pour tous, pour corriger nos attitudes, pour nous convertir et comprendre que certains, par leur consécration, tous, enfin leur consécration religieuse, tous par notre consécration baptismale, nous sommes invités à découvrir le mystère de la pauvreté qui a été particulièrement vécu par Dominique pour servir l'Église. Et c'est dans cette pauvreté que nous serons aptes à être des témoins fidèles, des témoins véridiques, des témoins crédibles de l'Évangile que nous devons annoncer.
Saint Dominique, une mission au cœur de l'Église. Vous venez de suivre l'intervention du frère Augustin Laffey, une intervention enregistrée le 25 mars 2022. Le Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elle. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Conférence de Carême 2022 des Dominicains de Bordeaux.